Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Céline Antonin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue un peu plus près du micro, Céline. Pardon. Économiste à l'OFCE, vous avez coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, vous avez publié Histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs aux cyber-travailleurs, l'économie expliquée à tous chez Talendier. Membre du comité éditorial de Pour l'écho. Je donne la une dans un instant parce que je vous fais réagir. Rafik Smati, bonjour.
Bonjour Nicolas Dose.
Chef d'entreprise dans le digital et vous êtes le fondateur d'Objectif France. Alors pour l'écho, à la une du mois de quoi d'ailleurs
Juillet,
absolument. Le numéro d'été, réel ou virtuel, point d'interrogation, l'art fait monter les enchères. De quoi parlez-vous? C'est alors, pas si évident quand on voit de savoir exactement quel est le thème.
Oui, le thème, c'est les prix des œuvres d'art. Est-ce que les prix des œuvres d'art peuvent être prévus, peuvent être analysés, peuvent être compris sur le plan économique? Ce qu'on met en avant, surtout, c'est que l'art est un domaine dans lequel il y a en fait une tierce personne. Vous avez l'acheteur, le vendeur, qui est l'artiste, et puis vous avez la tierce personne qui est le critique. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et celui qui va porter une évaluation sur l'œuvre n'est pas celui qui va payer l'œuvre. Celui qui paye l'œuvre, en général, c'est... Et en plus, celui qui paye l'œuvre, c'est aussi de plus en plus quelqu'un qui met de l'argent qui n'est pas le sien non plus. C'est-à-dire que le directeur de musée, il va s'appuyer sur le critique pour acheter une œuvre d'art dont le consommateur final n'a ni payé ni été en capacité d'évaluer l'œuvre. Et donc c'est un marché très particulier, très intéressant pour les économistes. Donc on regarde ça, puis alors on donne quelques anecdotes sur l'évolution, effectivement, de certaines œuvres d'art qui ont connu des destins.
Voilà, les NFT, variés. Ce genre de choses.
Alors après, effectivement, il y a quelques considérations sur les NFT, mais nous allons faire un numéro spécial sur les NFT, sur ce qui s'est passé autour des crypto-monnaies, enfin des crypto-actifs.
Vous aussi, maintenant vous dites plus monnaie.
Ah oui, non, moi, j'ai jamais dit crypto-monnaie. Non, j'ai toujours dénoncé cette appellation abusive.
Le débat n'est pas clos, hein. Je peux vous assurer, le débat n'est pas clos.
Il le devrait, parce que les éléments sont clairs. Ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est crypto, mais pas monnaie.
À côté de ça, Jean-Marc, on a tous pensé qu'Internet était mort en 2000-2001, et puis finalement, c'était qu'une dépression pour mieux rebondir.
J'entends bien, mais il y a quand même des choses.
Il n'y a pas là que j'enterre pas le crypto-actif.
Ah non, le crypto-actif, voilà. Non, mais comme élément de spéculation et d'escroquerie, pourquoi pas?
Ah, carrément. Bon.
Il y a derrière, il y a des éléments de spéculation, puisqu'il n'y a pas de création objective de valeur. Mais après, et à partir du moment où vous avez ce genre de. Dans la spéculation, vous avez toujours. Ça attire toujours les escrocs. Je ne dis pas que tous les gens qui agissent sur le marché des crypto-monnaies sont des escrocs. Je dis que forcément.
Les réactions, là, vous avez. Oui, immédiatement. Céline, ça vous fait réagir?
Oui, il faut répondre. Vous savez que c'est un de mes dadas, mais effectivement, la monnaie répond quand même à trois caractéristiques, dont le fait d'être une réserve de valeur, ce que n'est pas le crypto-actif. Donc déjà, rien que ça devrait...
Les trois éléments, c'est un outil d'échange.
Absolument, voilà. Instrument d'échange, donc réserve de valeur. Et instrument de transaction. Mais en tout cas, ce n'est pas une réserve de valeur. Puisque, je veux dire, on le voit, et en ce moment, on voit bien le cours du bitcoin. Hein, donc, si Madame Michu a mis ses économies en bitcoin.
Si on est rentré à 60 000. Voilà.
Donc, pour moi, c'est plus comme un baril de pétrole, on va dire, en instrument de spéculation. Enfin, encore que le baril de pétrole a quand même une utilité objective.
Il y a une valeur derrière le baril de pétrole.
Ce qui n'est pas sûr avec le bitcoin. Il faut rappeler aussi que le minage des crypto-actifs consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc, c'est vrai qu'on est quand même dans une période où on s'intéresse beaucoup à la planète. Et je suis quand même étonné qu'on ne relève pas forcément beaucoup le coût énergétique que peuvent avoir ces cryptos.
Les crypto-fanas ont plein d'arguments pour vous dire que cette histoire d'empreinte carbone et de coût énergétique du minage des crypto-monnaies, c'est pas vrai, ou en tout cas c'est compensé parce que on réutilise les chaleurs. Bon, bref, il y a plein d'arguments. Quelqu'un voulait réagir encore sur les cryptos? Non, c'est bon, Rafik Smati.
Simplement, je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport à ça. Moi, je fais partie des rescapés de la première bulle Internet. J'ai connu...
Vous avez connu 99-2000.
99-2000, et j'ai connu tous ceux qui disaient, à commencer par les banquiers, les experts, etc. Attention, Internet, ça ne marchera jamais, c'est un effet de bulle, etc. On voit ce que c'est devenu aujourd'hui.
Un peu de votre avis.
Donc, je resterai prudent. Je ne rentrerai pas dans des querelles d'experts qui consistent à dire est-ce que c'est une monnaie ou pas. En revanche, je prends le pari que le Bitcoin est encore probablement sujet à un grand avenir.
Non, mais juste une remarque, il n'y a rien à voir entre les cryptoactifs et Internet. Internet, c'est la transmission d'informations, donc il y a quelque chose de concret derrière.
Oui, mais là, c'est ce que vous dites 20 ans plus tard.
Voilà, c'est ça. Mais pas du tout, on le disait déjà à l'époque. À l'époque, après que vous ayez des gens qui... Vous avez deux aspects, parce qu'on peut faire la même chose sur le pétrole, il y a des gens qui spéculent sur le pétrole. Oui. Donc, il y a un mécanisme de spéculation. Cette spéculation, elle peut porter sur des objets économiques qui ont une utilité économique, une valeur intrinsèque, ou sur des objets qui sont purement spéculatifs. Donc, Internet, le baril de pétrole, c'est des choses qui répondent à un besoin économique. Échange d'informations, échange d'énergie. Derrière les cryptoactifs, il y a purement, simplement de la spéculation.
Oui. D'accord, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, on se demandait quand même qu'est-ce que tout cet univers un peu numérique, virtuel, allait devenir. C'était finalement la dépression pour mieux rebondir. On a aussi pensé qu'Apple était mort. Hein. J'ai entendu, Apple, c'est fini.
Après, encore une fois, vous avez...
Moment des certitudes et le moment des corrections des certitudes. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui.
Mais on est en train de dériver complètement, là.
Mais vous avez un service qui est rendu.
Oui, mais j'entends très bien.
Et puis vous avez des objets purement spéculatifs.
Je suis le premier à dire que c'est. J'avais dit un jeton de casino, vous imaginez pas ce que j'ai reçu dans la figure. Je pense que là, voilà, ça commence à arriver.
Ça a commencé, je
vois là. Pourtant. Alors, avant de parler du chèque carburant, je vais vous donner le détail de cette histoire dont on ne sait pas tout, mais pas mal de choses. Franchement, c'est croustillant. Mais on avait commencé à parler dans notre petite séquence d'avant-émission à Fixmati de l'histoire de l'arrêt des ventes de voitures thermiques par l'Union Européenne en 2035. Bon, on a eu l'intervention de Bruno Le Maire en direct à l'occasion de l'entrée en bourse de Deezer qui nous a un peu coupé la chic. Donc je voulais aller au bout de l'histoire parce que j'ai, avec Jean-Marc sur ce plateau, il y a quelques jours, on a fait un sacré réquisitoire contre cette décision. Moi, je disais que c'était une folie économique, industrielle, sociale. Et là, vous nous dites ce matin, non, c'est une décision, il fallait la prendre et il faut y aller.
Alors je sais que la position que je défends est extrêmement minoritaire en France, puisque les trois quarts des Français, selon un sondage récent, se sont prononcés contre la fin de la vente des moteurs thermiques en 2035. Alors c'est vrai que cette disposition a été très mal ficelée par l'Europe. On n'a pas sécurisé l'approvisionnement en électricité. Et c'est quand même un sujet majeur. Si on veut faire rouler 20 ou 30 millions de véhicules électriques, avec quelle puissance électrique c'est pas avec ce qu'on a aujourd'hui qu'on pourra le faire.
On est sur 15 millions à peu près, a priori, en 2035.
Voilà. Donc il y a un vrai sujet de construction de centrales nucléaires et le plan que nous avons aujourd'hui de 8 EPR, enfin 6 plus 2, ne répond pas à ça. Donc là, il y a un vrai sujet. Et donc c'est vrai que ça a été mal ficelé. C'est vrai qu'on n'a pas sécurisé la question de la souveraineté minérale, des métaux stratégiques, etc. Et c'est un vrai sujet aussi. Mais c'est pas parce que la Commission européenne a été mauvaise dans la mise en œuvre du projet qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du vin. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une mutation civilisationnelle majeure. Et vous voyez, je compare l'abolition du pétrole, parce que je l'appelle comme ça, avec l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, c'était quoi ? C'était, on s'est mis une contrainte. C'était la fin de la main-d'œuvre gratuite. C'était une sacrée contrainte, qui était tellement une contrainte importante qu'elle a engendré la guerre de sécession entre les États du Nord des États-Unis et les États du Sud. Les États du Nord qui étaient abolitionnistes et les États du Sud qui voulaient conserver la main-d'œuvre gratuite, la main-d'œuvre bon marché. Et à l'époque, on entendait finalement des formules que l'on entend aujourd'hui à propos de la fin du véhicule électrique. Oui, mais on se met une contrainte, on n'en a pas besoin, et puis la main-d'œuvre, on va perdre en compétitivité, qui sait qui va labourer nos champs, etc. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé quelques décennies plus tard ? Eh bien, il s'est passé que le Nord des États-Unis a été obligé de changer de paradigme et rentrer dans une révolution industrielle quand les États du Sud se sont enfoncés dans la pauvreté. Eh bien, moi, ce que je vois avec l'abolition du pétrole, c'est un phénomène comparable. Oui, ça va être compliqué. Oui, ça va être difficile. Oui, c'est une contrainte. Mais de cette contrainte peut naître un nouveau modèle économique, un nouveau modèle de civilisation même. Parce que je rappelle que l'énergie structure par définition les modèles de civilisation. La conquête du feu, ça a changé la nature humaine. La vapeur, le nucléaire, etc. Donc ce qui est en train de se passer, c'est ni plus ni moins que ça. Et nous allons probablement vivre 15 ans très difficiles. 15 ans très difficiles. Et il faut le dire aux gens. Mais... Après ça, peut-être que nous aurons de l'Europe un laboratoire d'un nouveau modèle de société. Parce que d'ici là, voyez-vous, moi je crois en la science. On aura inventé une économie circulaire du recyclage de nos métaux, du recyclage de nos déchets. Parce que je crois en la science, parce que je crois au génie humain. La plus grande des erreurs, c'est de considérer ce qui va se passer en 2035 ou en 2050 avec notre logiciel d'aujourd'hui. Il faut penser les choses en dynamique. Et cette contrainte d'aujourd'hui peut être le succès probablement de notre prospérité de demain. Et c'est la raison pour laquelle, même si je reviens sur les deux points essentiels que j'ai évoqués en introduction, sur l'approvisionnement, donc oui, il faut construire des centrales, et bien plus que ce qui est prévu aujourd'hui. Et oui, il faut sécuriser la question de l'approvisionnement en métaux stratégiques. Mais une fois qu'on a fait ça, regardons l'avenir, soyons offensifs, faisons bosser toutes les entreprises vers cet objectif commun. Et croyez-moi, on a les moyens de faire de 2050 un paradis pour vivre et entreprendre.
Évidemment, vous mettez les enjeux civilisationnels et très très élevés par rapport à un pauvre Nikodos qui, lui, parlait de choses très pragmatiques pour savoir comment est-ce qu'on mettait des bornes, comment est-ce qu'on réussissait à augmenter les terawattheures.
Oui, mais c'est de cet objectif élevé que l'on est capable de faire dérouler un plan qui nous permettra d'y arriver.
Là où je suis séduit par ce que vous dites, c'est qu'on a tendance justement à être toujours dans l'immédiateté et dans la petitesse des observations, et vous mettez, vous, justement, dans une hauteur de vue qui raconte une histoire.
Mais je vous le dis,
c'est là où c'est séduisant.
L'abolition du pétrole, c'est l'abolition de l'esclavage. C'est du même niveau.
Quelqu'un veut réagir à ce que vient de dire Rafik Smati ou Céline?
Je suis totalement en désaccord avec ça.
Parce que y compris la vision un peu élevée et lointaine.
On ne décrète pas en disant je fais confiance à la science, en considérant que la science va toujours répondre. Je vais prendre un exemple simple sur l'énergie. Ça fait très longtemps qu'on sait que l'énergie, c'est un problème. Et au XVIIIe siècle, on s'est posé la question de savoir comment on va répondre au problème de l'énergie, au problème du fait que la Terre fournissait l'énergie par le bois, l'énergie par les hommes et la nourriture des hommes en question. Et donc, effectivement, je mets souvent en avant le fait que les économistes de l'époque, les physiocrates, avaient demandé aux savants de l'époque comment mieux utiliser l'énergie solaire, qui est l'énergie que nous avons à disposition. Et donc, il y a le charbon, qui est l'énergie d'hier, il y a l'agriculture, qui est l'énergie de demain, donnez-nous l'énergie d'aujourd'hui. Ils avaient écrit à D'Alembert. D'Alembert, personnage clé, le savant du XVIIIe siècle, même si je pense beaucoup de gens ont oublié son nom. Et D'Alembert répond, rassurez-vous, la science est là. Vous aurez le soleil d'aujourd'hui à la fin du siècle, c'est-à-dire en 1800. Nous sommes en 2022, nous n'avons toujours pas le soleil d'aujourd'hui. Nous proposons toujours de substituer au soleil d'hier le charbon et le pétrole de l'énergie issue du nucléaire. Donc je pense que avant de dire la science va résoudre le problème, il faut que la science ait résolu le problème. Si on a aboli l'esclavage, c'est parce qu'on avait résolu le problème énergétique, et le problème énergétique avait été résolu justement par le charbon. On abolit l'esclavage dans les années 1860 et on commence à exploiter le charbon dans les années 1820-1830. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut avoir la solution effective pour répondre au problème. Parce que sinon, on rentre dans une logique, on reparlera de ça aussi avec la récession. Je suis toujours très réservé et très inquiet des gens qui considèrent que la solution, c'est au portet pati. Vous allez souffrir. Et au portet, ça veut dire il faut en latin. Vous allez souffrir.
Vous ne pouvez vous lancer sur la récession.
La souffrance.
Moi qui vais vous lancer
sur la.
Vous allez
avoir la récession. Vous allez, vous n'aurez plus de quoi vous chauffer. Vous n'aurez plus de quoi vous déplacer. Mais c'est bien, c'est bon. Là, c'est dans la souffrance que vous accomplissez votre destin. Oui. Je suis contre ça.
Alors j'ai un auditeur qui réagit sur votre comparaison avec les deux abolitions, considérant qu'elle est pas très opportune, et puis certains qui pensent que vous rêvez un peu quand même, Rafik. Bon, alors, c'est gentil. Mais c'est pas mal de rêver de temps en temps.
Je ne suis pas un rêveur, je suis un entrepreneur.
Ça, j'admets.
Et le propre d'un entrepreneur, c'est qu'il a de l'ambition et regarde loin. Et là, ce que je fais, c'est pas du rêve, c'est pas de l'utopie. C'est que je pense que nous sommes condamnés, collectivement, au niveau européen, à avoir une grande ambition et à la porter et à l'assumer.
En termes de grande emballe, allez-y.
Oui, alors rapidement, c'est vrai que ça me fait d'ailleurs un peu penser à ce qui se passe avec l'attitude de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, où c'est vrai que c'est pareil, on se coupe un peu des approvisionnements en se disant à 6 mois, on se coupe d'une grande partie du pétrole, on va faire pareil avec le gaz, sans avoir tout à fait les solutions de substitution. Donc, moi, on peut rêver, on peut avoir des objectifs. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, la baisse de toute façon de l'intensité pétrolière, déjà, elle a commencé déjà il y a un certain temps. En fait, on l'observe au quotidien. Pour moi, ça sera plutôt une transition graduelle. Et je ne vois pas non plus un changement total de paradigme, au sens où on n'a pas inventé non plus une source d'énergie nouvelle. Enfin, moi, je ne vois pas d'invention de source d'énergie nouvelle. Donc, ce n'est même pas pour moi une nouvelle révolution industrielle. C'est finalement un processus graduel et une transition qui prend du temps. Mais ce n'est pas comparable à ce qu'on a pu vivre dans l'histoire avec, justement, l'avènement de la machine à vapeur, etc. Enfin, pour moi, ce n'est pas tout à fait comparable. C'est qu'on va substituer une forme d'énergie, sans doute, à une autre, de façon avec une transition graduelle, avec après des réticences aussi, parce que le nucléaire, tout le monde n'en veut pas non plus à 100%, les énergies alternatives, on ne peut pas non plus, pour l'instant, se reposer uniquement dessus, donc tout ça prendra du temps, donc j'ai du mal à voir qu'on puisse se dire en 15 ans c'est bon, on va changer de paradigme.
Oui, mais sauf que vous prenez l'exemple de l'approvisionnement en gaz en provenance de la Russie. Si on avait eu le raisonnement que je tiens il y a 20 ans, On ne serait pas confronté à ce problème-là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est bien la vision à court terme et l'absence de politique publique, qui pour le coup est un sujet régalien sur un sujet aussi cardinal que l'énergie, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes
au pied du mur. On peut se dire qu'on n'a pas suffisamment de réflexion à long terme, ça, je suis d'accord. Mais par contre, il y a quand même une réalité concrète qui fait que, en fait, de facto, c'est difficile du jour au lendemain de se dire on va se priver de nos approvisionnements et accepter d'être.
Mais de toute façon, on ne construira pas les EPR avant 15 ans. Donc de toute façon, on aura une période de transition qui va être difficile à gérer. De toute façon. Maintenant, soit on se lamente ou d'autres décident de prendre la décroissance, soit on se dit, voilà le problème auquel on est confronté, on va le surmonter collectivement, entre Européens, et on va se donner les moyens pour qu'à partir de 2035, ça ne soit plus un problème, mais que ça soit une solution.
Oui, mais 2035, ça me semble très court. Comme
encore une fois, c'est court, et la solution, je ne vais pas dire aux Européens, à partir de 2035, c'est interdit. Je pense qu'il y a des outils autres, des outils d'abord, le signal prix, sur lequel on va revenir, c'est-à-dire faites un effort. Il y a donc tout le discours sur la sobriété et tout ça, et puis ça n'a de sens que si on a une solution concrète à mettre en regard. Il ne s'agit pas de dire, vous allez voir, on va résoudre le problème.
C'est la contrainte qui crée le changement, bien souvent, dans l'histoire de l'humanité.
Non, mais bon, l'échange s'entend avec intérêt, car vous avez tous les deux, des arguments qui font avancer l'histoire. Maintenant, en tout cas, la décision européenne, pour l'instant, est prise. On verra comment les choses s'inscrivent. Il y a pas mal de pays qui freinent quand même, malgré tout. Le chèque carburant se précise. J'aurais deux questions à propos de ce chèque carburant. Je vais vous raconter la mécanique, parce que c'est croustillant, mais voilà, on n'arrête pas de dire depuis des semaines qu'il faut des mesures ciblées. Là, on est sur une mesure ciblée, donc est-ce la bonne mesure? Et le fameux signal prix qui est quand même en train de voler en éclats, parce qu'on est aussi en train d'aider les entreprises grosses consommatrices de gaz et d'électricité. Donc on arrête de dire que c'est pour les gros rouleurs uniquement. Ce sera pour tout actif qui a des revenus modestes et qui est obligé de rouler pour aller travailler. Les actifs, visiblement, pour l'instant, on parle des salariés, des alternants. J'ai du mal à imaginer qu'on n'y mette pas les indépendants aussi. Sans doute feront-ils partie de l'histoire. Le niveau de ressources, Bruno Le Maire laisse la négociation au Parlement, entre 1500 et 1800 euros par mois. Celui qui prétend, qui pense pouvoir être éligible, devra s'inscrire sur le site des impôts, sur une page dédiée. L'aide lui sera versée en une seule fois, à l'automne. On n'a pas le montant, mais il devrait y avoir un montant probablement avec un bonus pour celui qui roule quand même beaucoup, au-delà de 12 000 km. Pour identifier les bénéficiaires, Bercy a décidé de croiser les fichiers d'assurance pour s'assurer que les gens ont bien une voiture et d'aller croiser les contrôles techniques pour évaluer le nombre de kilomètres parcourus et donc déterminer ceux qui seraient des gros rouleurs et auraient droit à un bonus par rapport aux autres. Après, comment déterminer que les kilomètres qui ont été réalisés pour aller travailler? C'est pas simple. Ça va figurer dans la loi ce pouvoir d'achat qui sera le 18 juillet à l'Assemblée nationale. Et probablement que c'est le sujet sur lequel les différents groupes vont s'affronter, car chacun a sa petite demande, l'un sur des taxes, l'autre sur le blocage des prix, l'autre sur la ristourne universelle ou encore une mesure ciblée. Jean-Marc, pas vous demander votre avis sur la cuisine, là, parce que je...
Oui, on parle d'usine à gaz. Moi, je dis toujours, dans ces cas-là, on est dépassé l'usine. On est dans la zone industrielle. C'est plusieurs usines à gaz. C'est devenu absolument incompréhensible.
On dit qu'il faut des mesures ciblées depuis le début, qu'il faut arrêter d'arroser tous azimuts avec des trucs qui coûtent des fortunes pour des effets finalement relativement modestes sur la vie de chacun. Là, on peut se dire que, voilà, on a peut-être un dispositif qui permet d'avoir le truc ciblé. On va être sur plusieurs millions de personnes, quand même.
Oui, je pense d'abord que le problème de pouvoir d'achat est un problème qui se résout par une augmentation des revenus et par une augmentation effectivement de ces revenus basée sur une augmentation de la production. Vouloir cibler en disant mais sur ce point-là on va vous préserver mais pas sur cet autre-là, enfin on en arrive dans les visions des utopies du 19e siècle où la communauté disait vous avez le droit à telle quantité de pain, vous avez le droit à telle quantité de viande. Enfin, je veux dire, c'est une vision que même les pires moments de l'Union soviétique n'ont pas connue. Vous avez une consommation, l'essence, vous devez consommer l'essence.
Il est considéré que c'est une consommation contrainte et que c'est une vraie coupe dans le pouvoir d'achat des gens.
Je pense après que les gens sont responsables. Je mets toujours en avant le fait que pour le week-end de l'Ascension, il y avait 934 km de bouchons. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même une capacité à utiliser l'essence dans des conditions qui ne sont pas contraintes. Je dis bien que je considère que les gens ont le droit de partir en week-end, mais c'est pas de la même nature que d'utiliser son véhicule pour aller travailler et pour répondre aux besoins de la vie familiale. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine liberté, une certaine responsabilité à laisser aux gens. Ensuite,
suivant contraintes quand même, Jean-Marc. Hein. Il y a des gens, je suis désolé, ils
n'ont pas
de métro, ils n'ont pas de bus, pas de tramway, ils ont besoin d'aller bosser, ça fait 50
bornes aller-retour. Ils ont besoin d'acheter de la nourriture pour manger, ça c'est une contrainte absolue, ils ont besoin de se loger et tout ça. On leur donne un revenu pour ça et après ils arbitrent. Et si ce revenu ne suit pas l'évolution, ne suit pas le pouvoir d'achat, il y a des dispositifs, en particulier sur les bas revenus, le SMIC est indexé, ça a des conséquences. Donc on laisse jouer ces dispositifs. Je suis d'autant plus irrité par tout ça qu'on subventionne encore une fois un produit dont on sait
pertinemment
que c'est un produit que l'on a condamné, on vient d'en parler d'ailleurs, on veut se débarrasser du moteur thermique parce que ça consomme du pétrole et on subventionne la consommation de pétrole. Et ensuite, est-ce que c'est plus ou moins inflationniste? C'est inflationniste dans la mesure où ça crée une différence entre l'offre et la demande. On subventionne la demande dans une situation où effectivement on est plutôt en difficulté d'offre. Mais ça va plus se traduire, je pense, par du déficit extérieur, parce que la demande que l'on subventionne, elle ne s'adresse même pas à l'appareil de production.
Elle enrichit les Saoudiens.
Domestique. C'est-à-dire qu'on est en train, pour résumer la situation, de ruiner la génération d'après pour permettre à la Russie et à l'Arabie Saoudite d'augmenter leurs revenus. Je pense que c'est un peu une politique de gribouille. Bon. Alors, c'est moins l'usine à gaz qui m'inquiète que l'architecte de l'usine à gaz. L'usine à gaz en tant que tel, bon, mais l'architecte, lui, m'inquiète beaucoup.
Compte tenu de la violence du choc sur certains un poste de consommation effectivement contraint comme l'alimentation et l'énergie et les transports, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les simples mécanismes existants d'indexation
si on augmente le SMIC l'augmentation du SMIC permet de faire face c'est prévu dans l'indexation du SMIC.
Il y a quelqu'un qui dit, Jean-Marc Daniel a oublié le photovoltaïque qui permet de capter l'énergie solaire.
Je vais répondre à ça.
Vous allez répondre dans un instant. Puis on va donner la parole, Jean-Marc.
Juste 30 secondes. C'est la promesse de D'Alembert, sauf que la promesse de D'Alembert, c'est pas vers ça qu'on s'oriente. On s'oriente vers le nucléaire.
Bon, on dit qu'il faut les deux, les trois. On marque une pause. Dans un instant, je vous demande votre avis sur le côté aide ciblée, parce que c'est quand même vraiment un sujet qui a été dominé, enfin qui a dominé ce QE pour le peuple. J'ai envie de dire ce quantitative easing forever de la vie de tous les jours. Et puis, effectivement, le signal prix. Là, le signal prix, on est quand même vraiment en train de l'enterrer très sérieusement et probablement pour un certain temps. À tout de suite.